Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir, ce soir Accent du Monde, c'est avec pour la rédaction en espagnol Andreina Flores.
Buenas tardes.
Pour un match de foot très spécial, une équipe formée par d'anciens guérilleros et des victimes des FARC qui rencontre une équipe de Normandie au stade de Bayeux en France. Ali Reza Manafzadeh de la rédaction persane.
De route par chemin.
Afin de faire un point sur les relations difficiles entre l'Iran et les États-Unis. Et puis Matej Wichniak de la rédaction roumaine.
Buenas tardes.
Pour nous parler du festival international de Sibiu dans le cadre de la saison culturelle croisée France-Roumanie. Bonsoir à vous tous. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la commémoration du débarquement allié en Normandie, voilà 75 ans. Intéressons-nous particulièrement à l'état des relations entre les États-Unis et la France. Même si les présidents de ces deux pays ont fait assaut d'amabilité pour célébrer la concorde dans la guerre et au-delà, il n'en reste pas moins qu'il y a plus de divergences que de convergences entre Américains et Européens, Matej Wichniak.
Oui, il y a des analystes en France qui disent que Donald Trump, depuis deux ans, la Maison Blanche se comporte comme s'il n'avait pas d'alliés. Il décrète des sanctions chaque fois que lorsqu'il est mécontent et ne se consulte jamais avec ses alliés sur les conséquences des sanctions ou sur la justesse de cette stratégie. C'est le cas dans le contexte du dossier iranien. Dans ce contexte, Trump menace de sanctions même ses alliés s'il n'accepte pas sa vision géopolitique de la région. Concernant le climat, le commerce, l'Iran, la construction européenne, le multilatéralisme, le Proche-Orient, la défense européenne, Donald Trump est devenu le nouveau monsieur Niet. Non. Sur la scène internationale. C'est Andrei Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères des années 70 et 80, qui était surnommé comme ça à l'ONU. Dès qu'il ouvrait la bouche, c'était pour dire niet à la communauté internationale, parfois seulement parce que l'Union soviétique avait le pouvoir de dire niet.
Alors ce que Donald Trump pense de l'Union européenne n'est pas très amical, Matej Wichniak. Parfois le président américain utilise des métaphores pour le moins blessantes.
Par exemple ce message où il promet aux Britanniques un super traité de libre-échange très avantageux dès qu'ils vont rompre, je cite, les chaînes qui les attachent à l'Europe. L'image est discutable, mais elle dit beaucoup de ce que Donald Trump voit en Europe. Un ensemble de pays enchaînés ou que Bruxelles maintient enchaînés. Mais cette animosité par rapport à l'Europe a des explications économiques. Les normes imposées par l'Union européenne en ce qui concerne la qualité des produits, la santé alimentaire, le respect de l'environnement, la traçabilité, l'éthique de la production, et ainsi de suite. Ces normes, donc, agacent beaucoup les multinationales et freinent leur implantation en Europe. C'est sûr que Donald Trump aimerait signer un traité de libre-échange séparément avec chaque pays de l'Europe qu'avec un ensemble qui essaie en effet de civiliser un peu le capitalisme.
Et puis, lors de ces commémorations du débarquement, ils étaient tous là, les chefs d'État et de gouvernement des pays dont les soldats ont libéré la France, puis l'Europe. Mais cette année, il y avait un absent de marque, preuve qu'il y a des divisions chez les vainqueurs du nazisme.
Absolument. Symptomatique est le fait que Vladimir Poutine n'a pas été invité à ces commémorations. Il y a 5 ans, il a fait le déplacement en Normandie, invité par François Hollande. Est-ce que le monde, à ce moment-là, était moins divisé? Est-ce que Poutine était plus fréquentable? Alors, on peut se poser la question, d'autant plus que le 5 juin, pendant que les alliés occidentaux étaient réunis en Angleterre, Vladimir Poutine recevait Xi Jinping à Moscou. Et les deux pays annonçaient un nouveau partenariat qui est évidemment dirigé aussi contre l'Amérique. Il faut dire que les États-Unis et la Chine sont en plein guerre commerciale. Lors de sa visite en Europe, Donald Trump a averti que les Chinois ne doivent à aucun prix gagner la course technologique.
Ali Reza Manafzadeh, les points chauds dans les relations actuelles entre les États-Unis et l'Europe sont multiples. L'un des plus importants est sûrement l'Iran. Quels sont les enjeux qui comptent le plus pour les Européens dans cette affaire?
En fait, les Européens, plus particulièrement la France, l'Allemagne et l'Angleterre, essayent de sauver l'accord sur le nucléaire iranien auquel les États-Unis ont renoncé. Ces trois pays signataires de l'accord ont créé un mécanisme de troc pour permettre aux entreprises européennes de continuer à commercer avec l'Iran. Mais ce mécanisme qu'on appelle INSTEX a du mal à fonctionner.
D'où l'ultimatum envoyé récemment à l'Iran sur son programme nucléaire. Que les Européens ont rejeté le 9 mai dernier.
Mais ils ont aussi réaffirmé leurs engagements fermes pour la levée des sanctions au profit du peuple iranien. Ils ont regretté que les États-Unis aient à nouveau imposé des sanctions après le retrait de l'accord en 2018.
Peut-on dire que dans cette affaire, les Européens sont pris en tenaille entre les États-Unis et l'Iran ?
Et ils ont en tout cas beaucoup de difficultés à sauver l'accord nucléaire qu'ils ont signé avec l'Iran.
Vu l'intransigeance de Trump à l'IRESA, peut-on dire qu'ils se rangeront finalement aux côtés des Américains, surtout en raison des liens historiques, politiques, économiques entre les deux continents ?
Mais ces liens dont vous parlez ne sont plus aussi solides qu'ils l'étaient dans le passé. Quand on a interrogé Bruno Le Maire sur la création de ce mécanisme de troc avec l'Iran, il a dit une phrase qui est très révélatrice.
Laquelle ?
Et il a dit, si l'enjeu était simplement de mettre en place un canal de financement entre l'Europe et l'Iran, cela pourrait sans doute aller très vite. Mais l'enjeu est la souveraineté commerciale de l'Europe. Bruno Le Maire est très précis sur l'indépendance économique et politique de l'Europe.
Est-ce que nous sommes prêts à affronter l'histoire ou est-ce que nous nous laissons porter par cette histoire et vassaliser par les autres puissances, Chine et États-Unis ? Et cette vassalisation n'est pas une formule rhétorique. Cette vassalisation est une réalité.
Voilà, donc un extrait de ce qu'a dit Bruno Le Maire. Les Européens voient aussi l'escalade de tensions entre l'Iran et les États-Unis sous un angle sécuritaire, Alireza ?
Bien sûr, une nouvelle escalade de tensions au Moyen-Orient pourrait être néfaste pour les Européens. Leur sécurité est plus menacée que celle des États-Unis. On l'a vu avec la guerre en Irak et en Syrie.
Andréina Flores, si on parle des relations entre l'Europe et les États-Unis, il y a aussi l'Amérique latine. Et là-bas, un pays qui est à la fois un point d'accord et un point de conflit, c'est le Venezuela.
Oui, en effet. Il faut rappeler que depuis le mois de janvier, les États-Unis, comme la majorité des pays de l'Union européenne, reconnaissent Juan Guaido comme président par intérim et demandent des nouvelles élections présidentielles. Mais si l'Union européenne cherche une solution pacifique entre Maduro et Guaido, les États-Unis par contre n'ont pas l'air de soutenir un dialogue. On écoute Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, le 1er mai.
Military action is possible if that's what's required.
Que disait-il ?
Pompeo dit qu'une action militaire au Venezuela est tout à fait possible si nécessaire. Le président Trump, dit-il, devra choisir le moment, mais c'est l'une des options sur la table.
Alors les représentants de Juan Guaido aux États-Unis demandent également à l'Europe de ne pas être une échappatoire des capitaux frauduleux des membres du régime de Maduro.
Exactement. Et précisément, l'ambassadeur de Juan Guaido à Washington, Carlos Vecchio, a envoyé un message à ce sujet au président Emmanuel Macron, on l'écoute.
Como lo decía el presidente Macron, yo le pediría que es el momento que Europa incremente toda la presión.
Carlos Vecchio dit que l'Europe n'a pas assez sanctionné les membres du gouvernement de Maduro, pas autant que les États-Unis en tout cas, et que ce manque de fermeté permet à l'entourage de Maduro d'avoir des entreprises, des comptes bancaires et des avoirs sur le territoire européen sans aucun contrôle. Vecchio demande à l'Europe d'arrêter d'être un refuge pour la dictature.
Voilà pour ce regard croisé sur les relations entre l'Amérique et l'Europe. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio
Live with me, today's headlines.
Accent du monde.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. La rédaction persane, avec vous, Alireza Manavzadeh, s'intéresse particulièrement, une fois de plus, sur ces relations difficiles qu'entretiennent l'Iran et les États-Unis. Alors, en voyage officiel en Suisse, voilà quelques jours, le ministre américain des Affaires étrangères déclarait que son pays était prêt à parler à l'Iran sans condition préalable. Quelle a été la réaction du gouvernement iranien à cela ?
Et n'oublions pas qu'il a en même temps dit que les États-Unis poursuivraient ses efforts pour mettre fin aux activités malveillantes de la République islamique. Je veux dire par là que la main tendue de l'administration américaine n'est pas aussi conciliante que l'on croit. Quant aux réactions des autorités iraniennes, le guide de la révolution et le gouvernement iranien ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. Khamenei, le guide, avait déjà exclu la semaine dernière la possibilité de négociation avec les États-Unis. Mardi 4 juin, dans son discours à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Khomeini, il a traité le président des États-Unis avec beaucoup de mépris.
خود این انتخاب نشانه افول سیاسی آمریکاست. سرنوشت
Quelle est la teneur de ce discours?
Il parle du déclin de l'Amérique et dit que le fait de confier le destin de plus de 300 millions d'êtres humains à une personne comme Trump est un signe de déclin. En Amérique, il y a beaucoup de discussions sur sa stabilité mentale et morale. Quand une personne comme lui est président d'un pays, cela montre bien que ce pays est en déclin politique et moral.
Comment réagit finalement le pouvoir iranien à tout cela ?
Comme d'habitude, Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, n'a pas tardé à réagir. Il a dénoncé lundi sur Twitter la guerre économique que mènent les États-Unis contre l'Iran. Il a en même temps exclu tout dialogue avec l'administration de Trump tant que les sanctions contre l'Iran ne seront pas levées.
C'est une réaction qu'on pourrait dire nuancée ?
Évidemment, samedi dernier, le président iranien Hassan Rouhani avait déjà déclaré que des pourparlers avec les États-Unis étaient envisageables si les autorités américaines agissaient avec respect.
Il n'y a donc pas de consensus sur ce sujet au sein du régime iranien ?
Apparemment, non. Mais les autorités iraniennes, dans leur ensemble, commencent à comprendre que le durcissement des sanctions américaines va bientôt asphyxier leur économie. Elles ont aussi peur du soulèvement populaire parce que la vie quotidienne des Iraniens devient de plus en plus insoutenable.
Alors, comment expliquer cette dissonance dans les discours ? C'est un partage des rôles, on peut dire ça ?
Le désaccord est réel, mais le fait que le guide exclue toute négociation et que dans le même temps le ministre des Affaires étrangères ou le président fixe des conditions pour une négociation montre que le désaccord, je dirais verbal, n'est pas une guerre de tranchées.
C'était Ali Reza Madhavzadeh de la rédaction Persane de RFI. Dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement, on y revient, a eu lieu le Forum mondial pour la paix. Or, cette manifestation a été inaugurée avec un match de football très particulier. L'équipe La Paz Football Club, formée par d'anciens guérilleros et des victimes des FARC, a rencontré l'équipe de Normandie. Andréina Flores, vous êtes intéressée à cette équipe colombienne qui finalement est un symbole de paix.
Exactement, c'est une initiative qui a vu le jour en 2014 dans le cadre des négociations de paix entre le gouvernement et la guérilla à La Havane. Et son créateur et président, Félix Mora, qui est un avocat spécialiste en droit de l'homme, explique le concept.
Uno, dos, tres, la paz, por club.
Crecí como muchos colombianos escuchando las dolorosas noticias de...
Il dit qu'il a grandi en écoutant des infos douloureuses sur une guerre irrationnelle et qu'il a voulu chercher un outil qui puisse sortir la Colombie de cet enfer de la guerre. Et en effet, Félix Mora a proposé au président Juan Manuel Santos de former une équipe, justement, formée par des ex-guerrilleros et des victimes.
Et vous avez eu l'occasion, Andréina, de rencontrer des joueurs de cette équipe sur le terrain qui ont été victimes des FARC.
Exactement. J'ai rencontré par exemple Marlon, habillé en maillot jaune, bleu et rouge, au couleur du drapeau colombien, qui a un témoignage assez frappant. On l'écoute.
La FARC bombardait beaucoup la police. Mi mamá le hacía comer a los policías.
Que vous avez raconté?
Il raconte que les FARC s'en prenaient fréquemment à la police de sa ville et comme sa mère faisait la cuisine pour la police, il était obligé de fuir parce qu'à chaque fois, il tirait sur la maison. Et Marlon a quitté la région du Valle del Cauca et il a commencé à jouer au foot, un sport que finalement lui a sauvé la vie. Après, Philippe, au niveau technique, il y a toujours un travail à faire. L'équipe de Normandie a gagné 3-0, mais pour ces joueurs colombiens, la victoire la plus importante est celle de la réconciliation.
Mais Andréina, vous avez vu donc ces gens de près. Comment est-ce que les ennemis d'hier peuvent aujourd'hui pactiser et regarder dans le même sens, même s'il ne s'agit que de football ?
Je crois que c'est une nouvelle génération. Je crois que ce sont des joueurs très jeunes qui connaissent le conflit colombien à travers leurs parents, leurs grands-parents, mais qui sont maintenant dans une nouvelle étape et qui regardent vers le futur.
Donc il n'y a pas de ressentiment ? Vous n'avez pas senti une tension entre
ces gens ? Non, je n'ai pas senti de tension. compréhension. Je pense que qu'ils ont compris que l'équipe de foot c'est justement un outil pour la paix et qui peuvent porter le même maillot tous et lutter pour le même but.
Quand le sport finalement adoucit les mœurs.
Exactement.
On dit que sport et politique ne font pas au ménage. Vous nous prouvez que c'est l'inverse qui est vrai. Andréina Flores de la rédaction en espagnol de RFI. Je signale que le prix reportage de RFI en espagnol destiné aux étudiants en journalisme de moins de 30 ans en cours de formation en Amérique latine et dans les Caraïbes a été décerné au salvadorien Juan Rafael Valdez Sandoval, étudiant de l'université Claustro de Sor Juana à Mexico City. Il remporte donc la 5e édition de ce prix grâce à son reportage Voyage croisé pour lequel il est parti à la rencontre de migrants centra-américains, la frontière sud du Mexique, et il offre des témoignages forts de l'exil, de la détresse, de la violence. Il bénéficiera d'un stage de 4 semaines entièrement pris en charge par RFI au sein de la rédaction en espagnol, donc avec vous, vous le croiserez Andréina, et ce sera au cours de l'été qui vient. Nous sommes maintenant avec Matei Vichniec de la rédaction roumaine. Vous nous parlez d'un autre débarquement qui n'a jamais eu lieu, celui-là, mais qui a hanté toute une génération en Roumanie.
Il s'agit du fait que les Roumains, mais aussi d'autres peuples de la région, ont attendu en 1944 un débarquement dans les Balkans. Après les débarquements alliés en Afrique, en Sicile, en Normandie, en Provence, des millions de gens dans l'Europe de l'Est ont cru que le prochain aura lieu dans les Balkans. D'autant plus que Winston Churchill voulait lancer cette opération pour ne pas laisser toute cette partie de l'Europe dans les mains des Soviétiques. Mais c'est la vision du général américain Eisenhower, le chef suprême des armées alliées, qui s'est imposée. On lui reproche d'ailleurs un certain aveuglement, il n'avait pas compris la vraie nature du régime qui allait arriver avec les chars soviétiques. En Roumanie, il y a eu des groupes de résistance qui ont attendu l'arrivée des Américains dans les Balkans, même après la guerre. Avant, la manière dont l'Europe de l'Est a été abandonnée aux soviétiques a laissé un goût amer qui a perduré pendant un demi-siècle dans cette partie du continent qu'on appelle parfois l'autre Europe.
Et donc l'Europe s'est fendue en deux, on va dire, avec le rideau de fer à cette époque. Autre chose concernant la Roumanie, Matei, dans une semaine, à Sibiu commencera un grand festival des arts et de théâtre. C'est l'un des plus importants en Europe.
Dans cette ville a eu lieu, il y a une semaine, un sommet européen, car la Roumanie assure en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne. Sibiu a été aussi capitale culturelle européenne en 2007, et ce festival existe depuis 26 ans. La ville elle-même est devenue une sorte de laboratoire culturel et économique en Roumanie. Pour quelle raison? C'est le directeur de ce festival, le comédien Constantin Chiriac, qui nous explique cela.
Sibiu este unul din foarte puținele orașe din lume care investește cea mai mare sumă a bugetului.
Que vous a dit donc le directeur du festival de Sibiu?
Il dit Sibiu est l'une des rares villes au monde qui investit une somme considérable dans la culture, 15% de son budget. Voici donc une partie de secret, l'investissement dans la culture qui a eu aussi des retombées économiques, comme à Avignon par exemple. Sibiu est une ville des festivals et des congrès avec une infrastructure touristique exemplaire, dans une belle région dont on voit même les cimes enneigées des Carpates. Là, je suis un peu lyrique, mais c'est pour la bonne cause.
Vous aimez bien cet endroit. Pour ce qui est du festival, vous remarquez, Matei, une forte présence française à Sibiu cette année.
Oui, plus que d'habitude, car nous sommes encore en plein saison culturelle croisée France-Roumanie, et c'est justement le deuxième volet, la présence française en Roumanie, qui fait venir à Sibiu beaucoup d'artistes français. Il y aura du groupe du théâtre, des grandes compagnies du théâtre de rue, comme par exemple les Plasticiens Volants. Il y aura le théâtre de la ville avec la pièce d'Albert Camus, L'État du siège, dans la mise en scène d'Emmanuel de Marcimota. Théâtre des Bouffes du Nord, avec Traviata, dans la mise en scène de Benjamin Lazare, des invités comme Jean-Michel Ribe, qui dirige le théâtre du Rond-Point. Donc voilà, c'est pas trop tard, tout cela commence la vendredi prochain. Il y a une cinquantaine de pays représentés dans le cadre du festival, dans ce festival à découvrir. Et voilà, j'incite tout le monde à aller à Sibiu.
Et vous allez y aller, vous, pour couvrir
cela? Oui, je couvre cela, j'ai le plaisir de couvrir cela pour RFI.
Pour RFI, l'antenne roumaine.
L'antenne roumaine,
et
mais
vous
aussi,
en parlerez également dans l'Action du Monde, très certainement.
On peut aussi toujours faire en direct l'Action du Monde du Sibiu.
Merci Matei Vichniec. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Action du Monde sur Radio France Internationale. Réalisation Fabrice Viollet.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. écoutez RFI en persan.
اخبار، گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌های گوناگون RFI به زبان فارسی را هر کجا که هستید و هر هنگام که خواستید در سایت این رادیو بخوانید و بشنوید.
Écoutez RFI en persan sur Hotbird et sur fa.rfi.fr.